Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est un peu plus qu'une interview de radio. Il s'agit d'un véritable entretien qui laisse place au partage, à l'écoute, la curiosité, l'échange et l'empathie. Cet été, chaque week-end, Isabelle Morizet vous propose la collection Les Éblouissantes. Ces femmes exceptionnelles se sont confiées en toute intimité au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, c'est une actrice, mannequin, chanteuse et militante de la cause animale, figure féminine et emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle des années 50 et 60. C'est une star mondiale, une égérie, une muse pour un grand nombre d'artistes. Brigitte Bardot est avec nous cet après-midi. On la retrouve tout de suite.
Europe 1.
Bonjour Brigitte Bardot.
Bonjour.
Et merci de nous accueillir au sein même de votre fondation.
Ben, ça fait plaisir, comme ça vous voyez un peu de quoi ça a l'air.
On en parlera tout à l'heure, mais c'est magnifiquement organisé, hein.
Oui,
c'est un bel espace.
C'est très bien.
Avec beaucoup de gens qui y travaillent. Mais parlons de vous d'abord, Brigitte. Pourquoi dites-vous que si vous n'aviez pas abandonné le cinéma à 38 ans, au fait de votre gloire internationale, vous auriez fini comme Marilyn ou comme Romy Schneider?
Enfin, c'est pas une certitude. Mais c'est un principe de précaution, c'est très à la mode ça.
Vous l'avez appliqué avant tout le monde.
Je l'ai appliqué, oui. J'ai pensé que effectivement ma vie, à partir d'un certain âge, avait besoin de structures de vérité, de choses vraies, de choses importantes, que je puisse mettre ma vie au service de quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et ce quelque chose, c'était les animaux.
Donc vous trouviez qu'il y avait un côté vain dans toute cette gloire qui vous entourait ?
Ah oui, totalement. Très vain.
Parce que des stars planétaires qui ont fait leurs adieux en pleine gloire, il n'y en a que deux, Garbeau et vous. Mais vous, on a vraiment tout fait pour vous retenir. Par exemple, j'ai appris récemment que Hollywood vous avait proposé un film avec Marlon Brando et vous aviez également proposé un film avec Steve McQueen. Je crois qu'il s'agit de l'affaire Thomas Crown. Alors comment s'y prend-on pour expliquer à Hollywood que finalement tourner avec Brando ou Steve McQueen, ça n'a absolument plus aucune espèce d'intérêt?
Surtout que moi, j'ai jamais été tournée à Hollywood. Déjà, Edin, je voulais jamais quitter la France. Et ensuite, à partir du moment où j'avais pris la décision de ne plus faire de cinéma, on aurait pu me proposer n'importe quoi, je n'aurais plus fait de cinéma.
Alors, j'imagine que quand on prend la décision justement de tout arrêter, les premières semaines, elles sont légères comme des vacances improvisées, comme l'école buissonnière. Mais ensuite, lorsqu'on se lève le matin et puis que toutes les journées finalement se répètent identiques à elles-mêmes, si loin du tourbillon que vous avez connu, comment on apprend à amadouer la solitude et puis tout ce vide à combler ? Parce qu'il y a la décision, mais ensuite on est catapulté dans un quotidien qui vous est pas du tout familier. Alors, quand on est une star.
Ça c'est sûr. Là il y a eu un passage à vide terrifiant. Parce que quand on fait du cinéma, on est programmé, on sait qu'à tel moment on doit refaire un film, on est entouré par des partenaires, etc. Bon là tout d'un coup il n'y avait plus rien. Il y avait mon envie de protéger les animaux, mais je ne savais pas non plus par quel bout m'y prendre.
Commencer, oui.
Et ça a été un apprentissage vraiment dur parce que pas de structuration, pas de but, ne sachant pas ce que j'allais faire de mes jours à venir, ni comment j'allais me dépêtrer de cette image de star qui me collait forcément à la peau pour devenir une protectrice reconnue et aussi qu'on ne prenne pas en dérision des animaux.
Mais pendant cette période d'incertitude, de doute, d'isolement comme ça, à aucun moment vous n'avez regretté d'avoir cassé le jouet ?
Non, j'ai pas regretté, mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai été m'embarquer dans quoi? Je ne sers à rien en fin de compte, je ne servais à rien.
Ça a duré longtemps cette période?
Ça a duré 3 ans.
3 ans?
Oui.
Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, Brigitte Bardot, parce que c'est quand même le point à partir duquel votre vie bascule. Vous arrêtez le cinéma, c'est une décision farouche. Vous dites qu'à aucun moment jamais vous n'avez regretté. Pourtant, il y a quelques années, je sais que des amis vous ont organisé une projection privée du film La Vérité dans une salle des Champs-Élysées. Et ce soir-là, lorsque vous êtes ressorti de cette projection, on vous a vu le visage couvert de larmes. Ça faisait déjà un certain temps que vous aviez tourné le dos au cinéma. Donc ça veut dire que quand même, il y a tout de même, tout n'a pas été négatif.
Non, mais par exemple, j'ai revu Vie privée, qui passait sur Arte. Donc j'ai regardé ce film parce qu'il fait partie de ma vie. En plus, il a été vraiment le reflet de ce que je vivais à l'époque. J'étais très émue en regardant ça. Ça m'a vraiment fait un effet bizarre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vrai que j'ai vécu une vie aussi épouvantable, aussi pourchassée, abîmée. Enfin, c'est une horreur. C'est une vie que je ne regrette pas du tout. Mais en voyant le film, j'étais extrêmement émue, comme quand j'ai vu La Vérité. Bon, je suis extrêmement émue de revoir des choses d'une grande importance dans la première partie de ma vie. Je ne les renie absolument pas, mais ils ne font plus partie de cette vie actuelle que j'ai depuis 33 ans. Quand il m'arrive de voir comme ça un film qui passe à la télé, bon, ça m'amuse, ça me rappelle des souvenirs, ça me remet dans un contexte de passé, mais en même temps c'est d'une très grande nostalgie et j'aime pas trop regarder ça.
Vous allez peut-être vous irriter parce que j'essaye de creuser un petit peu, mais c'est tellement fabuleux d'avoir en face de soi justement cette espèce de mythe et de légende qui fait qu'à la fin des années 50 et au cours des années 60, toutes les femmes d'Europe et au-delà ont voulu vous ressembler. Le look Bardot avec cette moue enfantine appuyée avec le chignon choucroute et puis la taille étranglée dans du Vichy rose, c'est vous qui l'avez imposé? C'est vous qui avez fait cette projection spontanément?
On m'a pas mis un pistolet sur la tempe en me disant...
Non mais parce qu'il peut y avoir, un agent, des producteurs, des coiffeurs, des maquilleurs autour de la ravissante créature. Mais tout ça, c'était vous, totalement.
Non, moi, d'abord les coiffeurs, j'y vais jamais et je me coiffe toute seule, ce qui se voit parce que c'est mes mains qui me servent de peigne. Les modes, bon, je me les inventais au fur et à mesure de mes envies et le Vichy est venu comme ça parce que j'avais vu une jolie petite robe en Vichy un jour dans une vitrine et que je me suis mariée avec et que du coup tout le monde s'est mis à porter du Vichy. Quant à la choucroute, c'est moi qui me coiffais à la va comme je te pousse avec mes cheveux qui ont toujours été très longs et très rebelles que j'accrochais comme je pouvais en me faisant un farfouillis sur la tête.
Farfouillis fascinant, qui a fait rêver. Farfouillis séduisant. Dans la famille Bardot, vous ne ressembliez ni à votre mère, parce que votre mère avait un physique de grande bourgeoise un petit peu rigide, quand même un peu Louise de Villemorin. Vous ne ressembliez pas à votre père. Et Mijanou, votre sœur, ne vous ressemblait pas. Vous étiez comme une sorte d'extraterrestre. Longtemps dans cette vie, vous avez eu le sentiment d'être une extraterrestre, Brigitte Bardot?
Ah ben non, ça ne me vient pas trop souvent à l'esprit.
Non mais, à l'époque. Par exemple, je voudrais savoir à quel moment vous aviez compris que vous étiez vraiment d'une beauté insolente qu'on ne croisait pas dans la rue.
Je ne l'ai jamais compris parce que la plupart du temps, je me trouvais vraiment pas à la hauteur physiquement. Je me trouvais vraiment moche. Alors je faisais des efforts désespérés pour ressembler à l'image que les gens se faisaient de moi, en me disant, je vais les décevoir si je suis pas aussi mignonne que ce qu'ils imaginent que je suis. En fin de compte, moi, je suis extrêmement nature. Je suis jamais mieux que dépeignée, pas maquillée, pieds nus, etc. Donc, il fallait que je corresponde à une image qu'on avait plus ou moins sortie de moi dans des films, dans des trucs, dans des premières de cinéma ou des trucs. Et alors à chaque fois, je voulais ressembler à l'image qu'on avait faite de moi. C'est le chien qui se mord la queue, on n'en sortait plus.
Alors vous dites totalement naturel, c'est effectivement comme ça que vous êtes apparu dans le film de Vadim et Dieu créa la femme, mais si le cinéma n'était pas venu vous enlever donc si tôt par l'entremise de Vadim, j'imagine que vous auriez été horriblement malheureuse dans une vie identique par exemple à celle de votre mère. Même si le cinéma vous a pesé, en même temps, vous aviez besoin de choses fortes et décalées. Vous n'étiez pas faite pour une vie bourgeoise.
Alors, il n'a jamais été question que j'ai la même vie que ma mère. De vrai, ça fait des problèmes. D'abord, j'ai commencé à faire de la danse.
Oui.
Bon, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la danse classique. C'était déjà loin de la vie de ma mère, tout ça. Et puis, j'ai fait des photos de mode aussi. Par l'intermédiaire de la directrice du Jardin des Modes, qui était une amie de maman. Tout ça dans le style jeune fille de bonne famille, pose pour le Jardin des Modes Junior, ou des trucs comme ça. Bon, alors déjà, bon, ça ouvrait une porte plus rigolote que la vie de bourgeoise que menait maman. Mais qui lui convenait très bien du reste.
Et qui ne vous aurait absolument pas convenu.
Mais qui m'aurait absolument pas convenu à moi. Certainement pas.
On retrouve immédiatement Brigitte Bardot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Bon samedi sur Europe 1, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec les confidences de Brigitte Bardot qui raconte comment elle a pris la décision d'arrêter sa carrière et sa vie d'artiste avant ses 40 ans et le déclic qui l'a fait changer de vie.
Brigitte Bardot, je sais que vous aimez cette phrase de La Rochefoucauld, il est un temps pour réussir dans la vie et un temps pour réussir sa vie. Vous considérez donc que ce jour de 1973 où en plein tournage de Colino Trousse Chemise sous la direction de Nina Campanès, vous avez décidé au propre comme au figuré de cesser de jouer la comédie, ce jour-là, pour de bon, vous avez enfin entrepris de réussir votre vie. Oui. C'était comme un acte égoïste, cette décision.
Cette phrase, je la trouve extraordinaire parce qu'elle est très vraie. On ne peut pas réussir dans la vie et en même temps réussir sa vie. Et c'est bien de prendre le temps de faire les deux. Et du haut de mes 72 ans, je peux vous dire que j'ai la chance d'avoir réussi les deux.
Mais à l'époque, du haut de vos 38 ans, vous aviez déjà conscience que, voilà, il était temps. Il fallait descendre de ce train-là.
Oui, je me disais, ma vie telle que je la conçois ne peut pas continuer à être une vie de superficialité, de paillettes, de décors, de faux sentiments, de fausses histoires, etc. Je voulais absolument m'occuper des animaux d'abord, c'est ce qui me faisait le plus envie, parce que je savais, et je sais depuis des années, les souffrances qu'ils endurent. Vadim m'en avait parlé, il a commencé à me parler de la vivisection, des abattoirs, j'étais très jeune, je comprenais très mal comment on pouvait faire subir des choses comme ça, des animaux. Bon, et puis au fur et à mesure des tournages, j'ai vu des animaux utilisés pour les films, qui étaient plus ou moins bien traités.
D'ailleurs, il y a une anecdote absolument hallucinante sur le tournage du dernier film, Colino Trousse Chemise, avec cette
petite chèvre. Oui.
Qui a pesé lourd d'ailleurs dans votre décision de tout arrêter.
C'est-à-dire qu'elle a été un déclencheur.
Il faut absolument que vous nous racontiez cette triste anecdote.
Non, elle n'est pas triste, elle s'est terminée bien.
Mais oui, mais au départ...
On était tous en moyen-âgeux, là, il y avait une bonne femme qui faisait de la figuration avec une chèvre, et moi je m'approche de la chèvre pour lui faire un petit câlin parce qu'elle était mignonne comme tout. Et la bonne femme me dit, il sera bientôt fini votre film parce qu'il y a le méchoui, la communion de mon fils, on fait la chèvre dimanche prochain. Oh ! Alors là j'étais dans un état de détresse, j'ai dit vous allez certainement pas tuer la chèvre, j'ai acheté la chèvre. Et je suis repartie avec ma chèvre et j'avais une petite chienne que je venais d'adopter qui s'appelait Pichenou, qui devait avoir 3 mois, la chèvre était pas bien grande non plus. Et je suis rentrée à mon hôtel 3 étoiles avec ma chèvre dans une main et ma chienne de l'autre. Et on a dormi toutes les trois dans le même lit.
Alors ils ont dû se dire à l'hôtel que c'était vraiment un caprice de star à l'époque.
Ah non, là
ils
ça,
ont
ça
pas
les
compris.
A fait rigoler. Ils
ça les a fait rire.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèvre dans des chambres 3 étoiles? Mais moi j'ai trouvé ça merveilleux, j'ai sauvé la chèvre.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, Brigitte Bardot. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous taxent de misanthropie sous prétexte que votre combat pour la protection du monde animal a vampirisé un petit peu votre vie et puis vous a sans doute peut-être isolé? Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous trouvent misanthrope?
Que je me fous pas mal de leur opinion. Alors
comment faites-vous pour continuer comme ça, d'aller de l'avant, alors que on sait que la presse vous malmène en France? Vous dites par exemple qu'elle vous boycotte même, que votre combat est pris beaucoup plus au sérieux à l'étranger qu'ici dans votre propre pays.
Mais oui, parce que je ne suis pas politiquement correcte. Je suis même très incorrecte. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire tout haut ce que je pense au fond de mon cœur. Je ne vais pas commencer à changer ma façon de voir ou de dire les choses parce que ça ne plaît pas. Bon, ça plaît pas, tant pis, ça plaît pas. Mais je continuerai à être moi-même jusqu'à ce qu'on me cloue au sapin de l'enterrement, comme dit l'autre.
Pour créer votre fondation, où vous nous accueillez aujourd'hui, Brigitte Bardot, votre fondation qui fête ses 20 ans, vous vous êtes dépouillée de tous vos biens en les vendant aux enchères en 87. C'était pas un peu suicidaire, ça?
Mais pourquoi? C'était au contraire formidable. C'était pour essayer de sauver des vies. Ça n'a rien de suicidaire. Quand vous avez des trucs dans des placards, que ça soit des bijoux, des souvenirs, des meubles, des tableaux, des robes de mariée ou d'autres, bon, c'est dans des placards. Je vais pas me balader avec la robe de mariée que j'avais avec Vadim quand j'avais 18 ans, ni avec tous les bijoux que Gunther Sachs m'a donné pendant qu'on était mariés, ni avec les tableaux merveilleux ou les meubles que mes parents m'ont donné en héritage. Tout ça sont des choses qui sont là, qui dorment. Or, ces choses qui dorment, je les ai vendues pour récupérer les 3 millions de francs qu'il fallait absolument
pour créer cette fondation.
Comme base à la fondation, oui.
Alors justement, cette fondation pour la protection animale, depuis 20 ans, c'est votre grande fierté. Vous vous épuisez dans des combats nombreux et incessants, légitimes, mais vraiment lourds. Qu'est-ce que vous avez contribué à changer concrètement? Qu'est-ce qu'on doit à la fondation Brigitte Bardot?
Alors on doit énormément de choses à la fondation qui a dénoncé depuis des années les mêmes choses, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir de faire changer les choses. C'est le gouvernement. Or, nous, on n'est pas au gouvernement. Et les ministres qu'on va voir estiment encore, de moins en moins, mais toujours quand même, que ce combat n'est pas prioritaire par rapport à d'autres. Donc, ce qu'on a fait de très important, c'est que ce qu'on a créé nous-mêmes, on a fait des sanctuaires pour ramasser tous les ours d'encens en Bulgarie, par exemple. Ces pauvres bêtes qui ont des anneaux dans le nez, qui sont pas nourris, qui sont déshydratés, qui vivent dans des petites cages et qu'on fait danser au son d'un tambourin parce qu'on leur a appris avec des plaques chauffantes que quand on tape sur un tambour, faut lever les pieds. Et puis en Roumanie, on avait fait énormément de choses aussi, mais il y a eu un changement de gouvernement. On avait été là-bas pour empêcher qu'ils tuent les 200 000 chiens errants. On avait commencé à les castrer, à les stériliser, à les soigner et à les remettre dans la rue, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Bon, on peut pas avoir un refuge de 200 000 chiens. Et on était d'accord avec le gouvernement, on a dépensé énormément d'argent, et le gouvernement a changé, et le nouveau premier ministre a ordonné de tuer tous les chiens. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait rien fait.
Mais vous n'êtes jamais las, parfois, depuis 30 ans, de jouer les redresseurs de tort, fort légitimement, de porter sur vos épaules toute la misère du monde animal. Vous n'avez pas, par moment, du découragement. Vous n'avez pas envie, soudain, de laisser tomber, de laisser faire.
J'ai certainement pas envie de laisser tomber, mais découragée et en détresse permanente, oui. Je vis dans un monde de douleur, de souffrance, de mort, et surtout de déshumanisation de l'être. Parce que les êtres humains, maintenant, considèrent les animaux comme des objets de rapport, et non plus comme un animal qui souffre, qui ressent la douleur, qui ressent le stress, qui ressent les choses comme nous. Et cette façon de voir l'animal, qui est un nouvel mode chez les êtres humains pour rapporter du pognon, bon, c'est une chose que je trouve épouvantable, parce qu'un être humain devrait se pencher sur cette douleur.
Alors justement, des fondations comme la vôtre, il y en a peu ou il y en a quand même quelques-unes dans le monde, en Europe par exemple?
Il y a des tas d'associations de protection d'animaux, ça, il y en a beaucoup. Mais elles sont très différentes de ma fondation.
Pourquoi?
Parce que ma fondation, d'abord, est une fondation, c'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus structuré qu'une association. Et ensuite, nous, on s'occupe de tous les animaux dans le monde. De tout, on s'occupe de
mais
tout.
Mais qui, le plus tard possible, prendra votre succession, Brigitte?
Mais
qui?
C'est ma fondation qui va continuer. Une fondation, c'est fait pour ça. Une fondation, c'est tellement structuré et tellement puissant que ça perdure après la mort de la personne qui l'a créée.
Alors, il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Cette opération des hanches qui vous libérait enfin de vos douleurs, et d'ailleurs que tous vos proches vous supplient d'accepter, il paraît que vous la refusez parce que pendant les 3 mois de rééducation qu'elle nécessite, vous seriez indisponible pour votre fondation. Vous considérez donc aujourd'hui que votre fondation, elle est beaucoup plus importante que vous?
Ah, ça c'est sûr. Et puis bon, je marche avec des béquilles, je vais pas aller courir la pré-tentaine, maintenant j'ai passé l'âge. Hein,
non mais il s'agit pas de ça, il s'agit simplement de faire plaisir à ceux qui vous entourent et vous aiment en acceptant une opération qui vous ferait du bien. Mais votre temps est trop compté pour cette fondation, vous ne pouvez pas disposer de 3 mois, ça serait trop.
3 mois c'est énorme parce que regardez, on a vraiment besoin de moi souvent. On a besoin pour prendre les grandes décisions importantes de la fondation. Je suis quand même la présidente, bien que je sois extrêmement entourée par vraiment une équipe en béton armé. Hein. Je suis la présidente, mais ce n'est pas moi qui décide du quotidien. Je ne vais pas aller courir dans les refuges maintenant, ou je ne vais pas aller courir à l'étranger pour aller dénoncer telle ou telle chose. Bon, donc je peux prendre un peu de recul, et je peux le recul que je prends, je peux le prendre avec mes béquilles. Ce qui m'empêche pas de taper sur la tête des gens qui m'emmerdent. C'est très super pratique en plus.
On vous fait confiance.
Restez avec nous, on retrouve Isabelle Morizet et Brigitte Bardot dans un instant sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1 et Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Brigitte Bardot nous parle de son refuge provençal, une chapelle qu'elle a fait construire face à la mer dans son domaine de la Madrague. L'occasion d'aborder avec elle son rapport à la spiritualité.
Votre chapelle, Brigitte Bardot, votre chapelle baptisée Notre-Dame de la Garrigue, qui se trouve dans les terres au-dessus de la Madrague, à l'écart des curieux et des touristes. Vous allez souvent vous y recueillir et méditer loin de la fureur du monde.
Ah oui, je l'ai construite pour ça, elle est à la Garrigue.
C'est vous qui l'avez construite, la chapelle.
Oui. Enfin, c'est pas moi de mes mains, mais enfin, c'est moi qui l'ai fait construire. Ouais. Elle est très très petite, on dirait un petit calvaire de montagne. Elle est absolument ravissante parce que justement, elle est minuscule et elle a une vue sur la mer qui appelle à toutes les méditations.
Ouais.
Je vais me ressourcer, oui.
J'ai presque besoin. Tous les jours lorsque
non, parce que maintenant, avec les béquilles, il faut se taper une montée d'une colline qui est assez longue. Je l'appelle mon petit chemin de croix. Et avec les béquilles, j'ai un peu de mal parce que c'est un chemin de chèvre, un chemin caillouteux. C'est la Provence. Et à la croisée d'un grand tournant, il y a cette petite chapelle que j'ai mise là, en face de la mer, sous un grand pin parasol. Et c'est un endroit de paix. C'est un endroit très très important pour moi.
Alors il paraît que dans cette chapelle, où personne jamais ne vient vous déranger, mais d'où vous entendez quand même au loin la rumeur, la cacophonie des plages, il y a deux photos qui sont accrochées, l'une de vous avec le pape et l'autre avec le Dalai Lama. C'est vrai ça ?
Oui, absolument. les deux, et plus une avec le plus vieux pape orthodoxe que j'ai rencontré en Roumanie, qui est un être unique aussi. Et puis voilà, une avec Jean-Paul II et une avec le Dalai Lama, qui, du reste, le Dalai Lama est le membre d'honneur de notre fondation.
C'est vrai. Mm. Alors, le pape, le Dalai Lama, le plus vénérable des popes orthodoxes, voilà. En qui et en quoi croyez-vous ?
En eux.
Si vous avez souvent l'occasion d'être fâché à cause de l'humanité.
Mais ça, ce sont des êtres exceptionnels, ce sont des êtres de bonté, ce sont des êtres de sagesse, ce sont des êtres de paix, d'apaisement, de sérénité, etc. Bon, ça, ce sont des êtres absolument merveilleux. Mais oui, je suis fâchée avec une grande partie de l'humanité parce que cette humanité me dégoûte profondément à tous les points de vue. Je la trouve barbare, cruelle, égoïste. Elle me fait peur souvent, l'humanité, dans ses réactions.
Elle a fait de vous presque une ermite, l'humanité.
Oui, l'humanité...
Vous avez choisi en quelque sorte une espèce d'exil.
Je me méfie beaucoup de l'humanité. J'ai choisi un exil, oui, où je me sens très protégée. Et où mes animaux sont protégés avec moi, et où ne rentrent que ceux que j'ai bien envie de faire rentrer. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Alors, puisqu'on évoquait le domaine de la Garrigue, qui est dans les terres juste au-dessus de la Madrague, face à la mer, est-ce qu'en 2006, Brigitte Bardot, donc 33 ans après que vous ayez arrêté de faire du cinéma, il y a toujours des bateaux chargés de touristes qui s'arrêtent devant la Madrague pour la mitrailler, pendant qu'on parle de vous dans des porte-voix? Ça continue?
Alors, c'est de pire en pire.
Non.
Ah oui. Elle est porte-voix, alors je me marre parce que les conneries qu'ils peuvent raconter, c'est à mourir.
Ça ressemble à quoi, par exemple, ce qu'on entend dans les porte-voix?
Alors, c'est en plusieurs langues, déjà. Alors, bon, faut se farcir l'allemand, le chinois, l'italien, l'espagnol, le français.
Parce que Bardot, c'est comme la Tour Eiffel.
Non, mais attendez, bon. Alors, elle a fait construire ses murs pour se protéger. Gunther Sachs qui se baladait en hélicoptère, qui lui balançait des roses qu'elle allait chercher, comme quand on joue à Colin Maillard. Enfin, des trucs à mourir. Toute la journée, il y en a 17 ou 18 par jour.
Mon Dieu.
Oui.
Et il paraît que vous ne descendez plus jamais à Saint-Tropez.
Non.
Pourquoi ?
Parce que Saint-Tropez ne me correspond plus.
Saint-Tropez ne vous ressemble plus?
Non, c'est devenu, je sais pas, surfait. Ça n'a plus rien d'un petit port de pêche. Ça n'a plus rien du petit port que j'ai connu.
Quand vous étiez enfant, parce que en fait, vous y passiez les étés de vos vacances.
Non,
je
n'allais
avec...
pas quand j'étais enfant.
Non.
Quand j'étais enfant, c'est la guerre et il n'y avait pas de vacances. Mais... après la guerre, mes parents ont acheté une petite maison de pêcheurs là.
Oui.
Et c'était vraiment ravissant, c'était adorable. C'était un petit endroit de rêve, où on vivait simplement, où c'était à la bonne franquette où tout le monde se connaissait, où le pêcheur t'invitait à bouffer la bouillabaisse qu'il faisait sur la plage et tout ça. Mais c'était des rapports merveilleusement gentils, humains, simples. Et puis maintenant, tout est devenu extrêmement sophistiqué. Il n'y a pas un truc qui n'est pas en marbre, avec des hôtels 6 étoiles ou 25 étoiles ou je sais pas quoi. Toutes les bonnes femmes sont en robe du soir, plus maquillées que des pintades et coiffées par tous les plus grands coiffeurs de Paris qui sont venus s'installer là. Et ça n'a plus rien. Il y a des yachts de milliardaires qui ressemblent à des bidets géants montés sur je sais pas quoi.
Vous voulez dire que Saint-Tropez est devenu Monte-Carlo?
Oui. Encore pire peut-être.
Ben alors, puisque ce qui fut votre paradis est depuis longtemps envahi et dénaturé, pourquoi vous y êtes resté? Pourquoi ne vous êtes-vous pas réinventé une nouvelle liberté ailleurs?
Parce que j'y ai mes racines, mes parents sont enterrés là, mes grands-parents aussi. La Madrague est une maison, était la première maison que j'ai achetée dans ma vie, et elle est aussi mythique que mon existence, et que je n'aime pas changer. Quand je suis enracinée à un endroit, je garde mes racines à cet endroit.
Alors, Vadim, vous avez donc emmené à Saint-Tropez, vraiment à l'époque où vous sortiez de l'adolescence, et où Saint-Tropez était encore véritablement un petit village de pêcheurs. Je voudrais qu'on fasse une incursion dans le cinéma. La caméra de Vadim, comme ensuite la caméra de Clouzot, de Verneuil, de Louis Malle, de Godard, elles ont été aimantes ou elles ont été impudiques?
Non, impudiques, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. On peut être impudique et aimer, c'est pas un problème ça. Les caméras sont des indiscrétions très puissantes de sentiments. C'est pour ça que j'aime pas trop maintenant me retrouver devant une caméra. Parce que ça vous prend un peu de votre âme, forcément. Puisque vous devez donner quelque chose que la caméra doit prendre. Ou si vous donnez rien et qu'elle prend pas, c'est que vous êtes à chier et on vous fait plus faire de films. Donc, y a un échange de dons et de prise de ce don. Et ça peut être aimant, ça peut être profond, ça peut être dramatique, ça peut être impudique, ça peut être ce qu'on veut. Tout dépend de la façon dont on vous le propose.
Dans quel film ça a été le plus aimant?
Je ne sais pas, parce que il y a des mélanges. Il n'y a pas que des films où c'est aimant, il y a des films où on vous maltraite un peu, il y a des films où on vous montre sous un autre jour différent, etc. Je crois que chaque plan dans chaque film est différent de l'autre et que c'est ça qui fait la variété du cinéma.
Revenons à votre vie d'aujourd'hui, Brigitte Bardot. La Madrague, vous l'avez donnée à votre fondation, vous en avez donc l'usufruit, mais vous y vivez seule avec votre époux ou bien tout de même, de temps en temps, des amis vous rendent visite? Parce qu'on disait tout à l'heure que vous êtes une espèce d'ermite comme ça qui a choisi son exil. Mais c'était un exil peuplé quand même.
Non, c'est un exil exil. J'ai choisi de faire un choix très 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 particulier avec les gens qui viennent me voir à la Madrague. Et je vis seule avec Bernard et mes chiens, mes chats. Et voilà.
Bon, alors les gens qui ont le droit de franchir le seuil sacré de la Madrague.
Mais c'est pas
ce
un seuil sacré.
C'est moi qui le présente ainsi, mais parce que bon, ce nom fait rêver jusqu'au fin fond de la Sibérie. On sait que Bardot vit à la Madrague, mais ce sont des gens du cinéma, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec votre vie d'avant. Vos amis, d'où viennent-ils, vos amis?
Non, en général, ce sont des gens de la fondation.
Ouais.
Ou alors des gens que j'ai connus il y a très longtemps et qui sont mes amis depuis 40 ans. Il n'y en a pas beaucoup.
Mais qui n'appartiennent pas forcément au milieu du cinéma.
Non, il n'y a rien du cinéma.
Il n'y en a pas un?
Non, il n'y en a pas un.
Ça alors. Et avec ces amis-là qui n'ont rien à voir avec l'univers du cinéma, vous évoquez le passé ou jamais?
Mais pourquoi voulez-vous que j'évoque le passé?
Pas quand il est aussi flamboyant.
J'ai horreur du passé, j'aime pas parler du passé. La seule chose que je trouve qui est importante à vivre et à vivre pleinement, c'est le présent. Parce que c'est la seule chose réelle, c'est le présent. L'avenir, on ne sait pas du tout de quoi il va être fait, et le passé, il est mort. Alors, il faut vivre le présent, et moi je vis le présent.
Donc vous avez rendu votre mémoire légère?
Ma mémoire est pleine de choses que je ne ressors pas de ces tiroirs.
On retrouve tout de suite Brigitte Bardot.
Isabelle Morizet et Brigitte Bardot jusqu'à 16h. La suite, c'est dans un instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Aujourd'hui dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, Brigitte Bardot qu'Isabelle Morizet a rencontrée en octobre 2006. Ensemble, elles évoquent le passage du temps, l'acceptation de l'âge, l'apparence physique et la maturité de l'existence.
Brigitte Bardot, je vais oser une question. Apprendre à gérer la cruauté de l'âge quand on a été la plus belle femme du monde, c'est un exercice compliqué.
Ah non, alors pour moi, bon, évidemment, c'est pas rigolo de vieillir. Mais je trouve que c'est tellement normal et tellement naturel. Moi, je suis quelqu'un de très naturel, donc j'accepte. C'est pas toujours facile, mais il faut accepter de vieillir. Sinon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se fait faire des lifting, on va retrouver l'image qu'on avait quand on avait 30 ans, et on a le cœur quand même qui est pas tout à fait le même, on a des bleus à l'âme, comme disait Sagan. Et ça, on peut pas faire des liftings à l'âme ni au cœur. On a alors un physique de gamine et puis une mentalité d'une dame d'un certain âge. Ou alors on a d'autres problèmes. On a des problèmes d'arthrose comme moi. Mais on peut avoir aussi des problèmes de santé plus graves, des cancers ou des choses comme ça. Je crois qu'il faut accepter les choses quand elles arrivent d'une façon le plus jolie possible.
Finalement, est-ce que mentalement, cérébralement, intellectuellement, vous ressembliez à votre physique ? Parce que vous avez une fichue personnalité et vous aviez un physique tellement enfantin et boudeur, avec un caractère en acier trempé. Est-ce que votre image vous ressemblait ?
De toute façon, on dit qu'on a un peu l'image physique de son caractère, de son profond moi. Et je pense que oui. Et mon physique évolue avec l'évolution de ma vie. Et c'est bien. Il faut que ça soit comme ça.
Vous étiez si belle que vous avez affolé votre époque. Le cataclysme que vous avez provoqué, j'utilise volontairement le mot cataclysme, même s'il était lourd à porter, j'imagine qu'il a dû quand même vous amuser. Parce que vous nous avez dit au début de cette conversation, j'ai décidé, j'ai tourné le dos. Tout ça m'ennuyait furieusement. Mais ça a dû, parfois, être d'une fantaisie folle.
Mais c'est amusant, bien sûr, c'est chouette de ne pas être un pou volant. Il vaut mieux être joli que moche et en bonne santé que malade. Bon, mais ça remplit pas une vie, ça.
C'est ça. J'entends bien.
Voilà.
J'entends bien.
Ça peut donner des moments de bonheur en se disant où j'étais mignonne, où j'étais jolie, où j'ai eu du succès, ou un truc comme ça. Mais c'est très superficiel comme réaction. On ne peut pas baser son existence sur des petits trucs comme ça.
C'est évident, mais en même temps, comme c'est un phénomène qui a révolutionné les canons de la beauté contemporaine, hein, ils sont toujours en place et vous êtes toujours la référence. Donc c'est quelque chose de tellement énorme que je ne peux pas ne pas poser la question. Mais, par exemple, le film dans lequel vous êtes trouvée la plus belle, c'est lequel ?
Ah ça, j'en sais rien du tout. Je m'en fous comme
alors, le film dans lequel vous êtes trouvée la plus émouvante ?
La vérité.
C'est la vérité.
Clouseau, oui.
La plupart des artistes exultent dans l'exercice de leur art. Pour vous, jouer la comédie, ça n'a jamais été rien d'autre qu'un exercice imposé.
Non, en fin de compte, je crois que j'ai jamais joué la comédie, mais que je vivais les actions que je devais rendre au cinéma.
Mais ça, c'est le but ultime qu'on devrait atteindre tout acteur, en fait.
Non, parce que c'est
pas jouer et vivre.
Non, c'est dangereux. Alors, je tombais amoureuse de mes partenaires parce que je pouvais pas faire semblant. Quand il y avait des moments dramatiques, je les vivais tellement intensément que j'arrivais plus à me remettre sur pied tellement j'étais triste. Ça allait profondément au fond de moi. Par contre, quand c'était drôle, alors je m'amusais comme une folle, pour de vrai. Je vivais ce que j'avais à jouer. Voilà. Je jouais pas.
Sincèrement, est-ce que vous avez été plus heureuse après avoir arrêté de faire du cinéma et avoir tenté d'une certaine façon d'échapper à Brigitte Bardot ? Ça vous a vraiment allégé ?
J'ai pas vraiment échappé à Brigitte Bardot, pour tout vous dire, parce que
jamais,
il m'est
aucun
très
moment.
Difficile de vivre normalement.
Toujours aujourd'hui.
Même maintenant, oui. Je peux pas aller faire des courses, ou c'est un peu compliqué. Je peux pas aller dans un restaurant normalement. On me reconnaît, on vient me demander des autographes, des trucs, des machins. Vraiment, beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Mais je n'ai pas acquis la liberté.
Celle dont vous rêviez, vous ne l'avez jamais acquise.
Je ne l'ai jamais acquise. C'est pour ça que je me préserve beaucoup et tout ça, parce que je ne veux plus du tout revivre, surtout maintenant que je suis à mon âge, ce que je vivais à 30 ans. C'était déjà difficile à 30 ans, maintenant je ne le supporterai plus.
Est-ce que dans votre vie, on vous a aimé pour les bonnes raisons ?
Je ne sais pas si dans ma vie on m'a aimé pour les bonnes raisons, mais je sais qu'actuellement, maintenant, on m'aime pour les bonnes raisons.
C'est ça l'important.
Oui, c'est ça, c'est très important.
Vous êtes toujours blessé ou tout de même vous avez trouvé une certaine paix?
Je suis pas dans une vraie paix parce que je m'occupe de choses tellement atroces, abominables, quotidiennes et qui sont de pire en pire parce que les choses ne s'arrangent pas au point de vue des animaux étant donné qu'il y a un commerce qui se crée qui est de plus en plus important autour de l'animal et dans des conditions de détresse physique pour eux absolument atroces. Alors on peut pas dire que je sois dans la peine et dans le bonheur. Mais disons que j'essaye de me trouver une certaine sérénité au fond de moi. J'essaye de chercher l'apaisement que je trouve pas toujours. Et par exemple dans ma petite chapelle ou auprès de mes animaux ou en lisant des choses qui m'intéressent, qui me changent les idées. Des petits bonheurs que je me trouve comme ça.
Brigitte Bardot, dans aucune des générations qui sont succédées depuis bébé, il n'y a eu un phénomène équivalent au vôtre. Mais si vous aviez quelques mots à dire aux jeunes actrices qui rêvent de gloire, ce seraient lesquelles? Vous allez me répondre, je n'ai rien à leur dire. Elles savent très bien ce qu'elles doivent faire toutes seules et comment elles doivent mener leur route. Mais
c'est même pas la peine de me poser la question.
C'est vrai, s'il y avait quelques mots à leur souffler à l'oreille.
Je n'ai aucun conseil à donner. Chacun doit faire son expérience lui-même. Et les conseils ne servent strictement à rien. Alors c'est idiot d'en donner.
Ça, vous avez la certitude que l'expérience des uns n'a jamais servi aux autres?
Jamais. Et puis bon, je vais vous dire les conseils. Ce qui va pour quelqu'un, va pas pour quelqu'un d'autre, en plus. C'est très personnel.
On a essayé de vous conseiller tout au long de votre carrière, beaucoup. Vous étiez cerné par des gens qui ne cessaient de vous donner leurs avis.
Mais alors, ça n'a pas changé grand-chose. Hein.
C'est vrai. Vous avez toujours été seul à décider, pour tout.
Oh oui, plus ou moins, oui. Je faisais ce que j'avais envie, voilà, de faire. Et dès qu'on me barrait la route, ça me donnait encore plus envie de faire ce que j'avais envie de faire.
Mentalité de petit soldat.
Mentalité de tête de cochon, oui.
Allez, on va dire tête de cochon à la place de petit soldat.
Restez avec nous, Isabelle Morizet et Brigitte Bardot reviennent dans un instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
C'est déjà la dernière partie d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Elle a tourné avec les plus grands, Sacha Guitry, Roger Vadim pour Et Dieu créa la femme, Henri Verneuil, Louis Malle, Jean-Luc Godard et bien d'autres. Elle a chanté avec et pour les plus talentueux, Serge Gainsbourg notamment. C'est Brigitte Bardot qui est avec nous encore pendant quelques minutes.
Brigitte Bardot, tant de livres sont sortis sur vous depuis près d'un demi-siècle, tant d'albums photos, tant de vraies et de fausses biographies, toute une banque de données qu'on ne cesse de remuer avec le même intérêt puisque le mythe bébé fascine toujours. Mais vous, qu'est-ce que vous contrôlez? Vous contrôlez presque tout ou presque rien de toutes ces images?
Alors, je ne contrôle que ce que j'écris moi-même.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai écrit deux autobiographies, Initial bébé et Le carré de Pluton. J'ai écrit un livre qui a fait scandale, mais que j'adore, qui s'appelle Un cri dans le silence. Et le dernier que je viens de sortir, qui paraît aux éditions du Rocher, c'est un livre qui me tient énormément à cœur, parce que je l'ai appelé « Pourquoi ?» avec un point d'interrogation. Et c'est une question que je pose après un bilan de vie assez important. Pourquoi la cruauté, la barbarie, pourquoi la méchanceté et le profit ont à ce point envahi le monde en prenant comme cible les plus faibles et ceux qui peuvent pas se défendre, les animaux. Ce dernier livre, pourquoi j'aimerais beaucoup que les gens l'achètent pour comprendre cette vie que j'ai choisie.
Vous avez le sentiment quand même d'être entendu à présent?
Ah oui, par le public certainement. Par ceux qui nous gouvernent.
Par les autorités en place? Non,
je veux dire,
c'est
ils ont tous besoin d'un appareil auditif. Ils promettent tout et rien ne change. Les choses ne changent pas, n'évoluent pas. Il faut le pouvoir pour faire changer les choses.
Et pourquoi vous n'êtes pas entré en politique?
Oh, alors merci. Alors ça, vraiment, ma fondation est là depuis 20 ans. Vous imaginez depuis 20 ans le nombre de gouvernements qui se sont succédés? Et le nombre de ministres qui ont été foutus à la porte et que d'autres qui ont repris leur place, etc. Non, il faut une chose stable.
Comme vous,
comme
qui êtes
moi,
toujours là, au sein de cette fondation,
oui.
Si vigilante. Alors, Vous venez d'évoquer à l'instant le livre qui vient de sortir donc aux éditions du Rocher, qui a pour titre « Pourquoi rédiger de votre main même Brigitte Bardot », qui vous tient tant à cœur. Et en même temps, il y a un autre livre, alors vraiment dans un registre totalement différent, qui sort chez Albin Michel. Il s'agit d'un entretien qui a été rédigé par Henri-Jean Servat, complice et ami fidèle, avec des photos superbes, que vous avez d'ailleurs légendées vous-même. Elles viennent d'albums personnels, ces photos ?
Elles viennent d'un peu partout. On a essayé de trouver des photos qui n'étaient pas du tout courantes, pas connues, qui sont très très jolies et qui sont alors l'incarnation totale de ma première vie. Mmh. Alors ces deux livres sont complètement complémentaires. Il y a ce livre qui s'appelle Vie privée, qui parle de ma vie de star, qui parle aussi de ma vie avec des animaux, parce que star avec les animaux, j'ai toujours été dans tous les films, même quand j'étais en dehors des films, j'avais plein d'animaux à la maison, etc. Bon. Mais c'est une période de vie qui est la première période de mon existence. Mmh. Et c'est Henri-Jean Servat qui a fait ça sous une forme d'interview profond. Mmh. Voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, j'ai écrit les légendes des photos.
Mais vous cautionnez chacune des phrases qui est imprimée dans ce livre-là. Il vous ressemble.
Il est tout à fait le reflet de ce qu'il représente, ce livre. Il est très différent de l'autre.
C'est Brigitte jusqu'à la décision d'arrêter de faire du cinéma. Et l'autre, c'est depuis, ma vie, mon combat, depuis, justement.
Voilà. Et pourquoi j'ai arrêté et pourquoi j'ai donné ma vie et pourquoi je suis tellement obstinée à arriver à quelque chose. Et c'est ça, c'est dans pourquoi.
Bon, il y a tous les pourquoi qui sont posés dans cet ouvrage. Ce matin, vous avez répondu à cœur ouvert à mes pourquoi à moi. Mais j'ai quand même un dernier pourquoi à vous soumettre. Pourquoi, généralement, vous ne voulez plus parler de Brigitte Bardot ?
J'arrête pas.
On vous force à le faire.
On parle de
on
quoi,
vous force à le faire. Non, je vais vous chercher dans votre retraite, mais on sent qu'il y a une espèce de douleur à vous livrer, à livrer Brigitte. Parler de votre combat, parler de la fondation, parler de tout ce que vous entreprenez pour la protection du monde animal, oui. Mais parler de vous.
Mais en parlant de tout ce que vous venez de dire, c'est de moi que je parle, puisque c'est mon combat et que ça me tient terriblement à cœur. Moi, j'ai rien à dire sur moi personnellement, j'ai à dire sur ce qui me tient à cœur, et c'est ce que vous venez de dire.
Merci Isabelle, on vous retrouve samedi prochain pour un nouvel entretien exceptionnel de la collection Les Éblouissantes avec la chanteuse d'opéra Cecilia Bartoli, l'une des plus importantes artistes lyriques de notre époque que vous avez reçue en novembre 2005. Et pour réécouter les confidences de Brigitte Bardot, direction le site internet europe1.fr et les podcasts « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Dans un instant, Carl Zéro pour un nouveau numéro de Culture Culte avec l'acteur, scénariste, réalisateur et producteur Jean-Pierre Mocky. Europe 1.